97.9.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi en direct, nous vous accompagnons sous la chaleur, vous qui nous écoutez dans toute notre région Occitanie. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, coup d'œil sur le sommaire de cette émission, dans un instant direction Castelnau-Magnoac. Durant plusieurs mois, Monseigneur Jean-Marc Mika a effectué des visites pastorales dans le diocèse. À cette occasion, Radio Présence l'a suivi et Anne-Rose Jankovic a tendu son micro. Et à l'occasion d'une visite, il y a quelques semaines, Anne-Rose Jankovic a interrogé le maire de Castelnau-Magnoac, on pourra l'écouter ou le réécouter dans un instant. Et puis dans cette émission, on va découvrir la figure d'un saint, c'est Saint Orens qui a évangélisé la Bigorre au 4e siècle. D'origine espagnole, il est né à Huesca et c'est même lui qui a créé le tout premier moulin en Bigorre. On en parlera avec Catherine Albrecht au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis on parlera d'un panorama. Un panorama, c'est en quelque sorte l'ancêtre du cinéma. C'est une immense structure ronde sur laquelle est dressée une toile qui représente des scènes et à Lourdes. Lourdes a eu son panorama, une toile de plus de 125 mètres de long. C'était en 1855. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Émission qui démarre donc avec Anne-Rose Jankovic, direction le nord-est du diocèse de Tarbes et Lourdes, direction Castelnau-Magnoac.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Monsieur Verdier, monsieur le maire de Castelnau-Magnoac, merci de répondre aux questions de Radio Présence. Monseigneur Mika est en visite dans votre ville. Qu'est-ce que vous avez envie de lui montrer de cette ville ou de ce grand village?
Oui, voilà, Castelnau-Magnoac est un bourg centre. C'est un village perché, donc sur le plan architectural. Enfin, si vous promenez dans les rues, on a plusieurs étages avec des places qui, au Moyen-Âge, étaient réservées à des marchés de plein vent. Donc il y avait la place au cochon, la place à la volaille, la place du marché au grain. Voilà, donc Castelnau-Magnoac, enfin, je le dis souvent avec mes collègues du département, c'est le village le plus gascon de la Bigorre, parce que nous sommes frontaliers du Gers. Et notre culture, notre économie, et, je dirais, se caractérise surtout autour d'une activité agricole, agroalimentaire, avec, je dirais, la valorisation de produits, on va dire, d'excellence. Je rappellerai le porc noir gascon, la oui. Poule noire d'Astarac, le foie gras, puisqu'on a une conserverie dont la particularité, c'est qu'elle est gérée par les agriculteurs. Voilà, c'est la conserverie du Magnoac avec la maison du Magnoac. Voilà.
Il y a combien d'habitants ici?
Alors, on est autour de 800 habitants, disons qu'on est en dessous de 1000 habitants, mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on remplit une fonction de centralité. On a tous les commerces, tous les services, et disons, ça impacte un bassin de vie à peu près de 10 000 habitants. Comme on dit, nos amis du Gers, une bordure de la Haute-Garonne, font partie des gens, mais qui se retrouvent entre autres sur le marché hebdomadaire, tous les samedis. On a un marché très actif, avec des petits producteurs.
Et des artisans aussi. Des artisans, voilà.
Alors, ce qui caractérise notre village, c'est qu'il y a une très forte convivialité. Tout le monde se parle, se salue. On a plaisir, à porter cette identité magnoacaise dont on est fier. Et surtout, on veille à ce qu'elle ne disparaisse pas dans cette évolution de la société où on a tendance toujours à tout regrouper, à niveler. Donc on est un petit peu résistant sur le
même. Alors cette identité magnoacaise, elle a, au fond, elle porte un petit peu de culture, la pyrénéenne et la gersoise qui font bon ménage ensemble.
Absolument, voilà. Nous sommes des d'Artagnans, des descendants de d'Artagnan, et puis on regarde, y compris avec nos amis espagnols. Et Castelnau était réputé par ses marchés. Il y avait 4 grands marchés, 4 grandes foires, et c'était nos amis aragonais qui venaient acheter des mules, acheter des volailles, acheter des bovins, et tout cela, ils venaient à pied et repartaient à pied avec les achats. C'était effectivement des achats vivants, hein. Ils repartaient avec vers le bovin, surtout les mules.
Voilà. Et tout cet héritage, ben, vous l'avez encore, et vous essayez de l'entretenir et de le conserver, de le partager.
Tout à fait. Mais c'est un lieu, c'est un carrefour, et on essaye de faire vivre un peu ces traditions. Mais c'est surtout, je dirais, ce souci de partager, de faire vivre la convivialité. Alors, bien sûr, ça peut paraître passéiste, mais je fais partie de ceux qui disent que c'est important d'avoir des racines, de savoir d'où on vient et de faire vivre ces racines pour se projeter dans l'avenir. Alors, on est tourné vers l'avenir quand même. Puis depuis 15 ans, presque bientôt 20 ans, on a un plan d'eau qui s'est constitué, qui a été implanté au pied du village, dont la fonction est d'assurer la salubrité, autrement dit sécuriser l'eau potable, l'accès à la potable, à l'eau potable de nos amis gascons. Hein, donc, c'est 300 000 consommateurs d'eau qui sont concernés par ces 5 millions d'eau qui ont été stockés au pied de Castelnau à partir du système NS. Et on a, je dirais avec bonheur, créé une petite base nautique avec une plage, avec des espaces qui attirent beaucoup, beaucoup de monde.
Alors, on voit que les défis sont nombreux, et ce sont des défis qui se portent dans la durée. Alors là, vous nous parlez en environnement, vous nous parlez de l'eau, donc de l'environnement. Tous ces défis, puis peut-être aussi celui du patrimoine, sont des défis qu'il faut porter en ayant bien en tête que ça va prendre du temps.
Tout à fait. Alors, notre pas est un pas lent. Alors, j'ai la chance d'être élu depuis 1977. Ça m'a permis, de prendre du recul, de comprendre qu'on ne peut pas faire tout en claquant des doigts. Ça se fait dans le temps. Il faut embarquer le maximum de concitoyens. Et il faut surtout pas baisser les bras. Ça paraît insurmontable, relever des défis. Je prends le dernier exemple. On a racheté l'hôtel-restaurant du pont et l'ensemble de la rue, et puis on a relancé le restaurant. Après on va faire revivre l'hôtel, mais tout ça prend du temps. Donc il faut pas être impatient, mais il faut croire en l'avenir, et un avenir existe toujours. À charge à nous de le faire beau, consensuel, et garder ce souci de rester dans l'humanité, dans le partage, et je dirais en faire un espace de protection de valeurs, je dirais, qui manque à notre société à dominante urbaine, c'est-à-dire éviter d'introduire ces notions de violence, d'agressivité, veiller à ce que tout le monde vive en paix et que tout le monde ait une place sur ce territoire du Magnouac.
Alors, on parle beaucoup d'avenir. Quelle est la place que prend le patrimoine et l'entretien du patrimoine? Quand on parle d'avenir, on voit bien aussi que pour envisager l'avenir, il faut prendre soin du passé. Et là, la question du patrimoine, elle est au premier rang. Un petit mot peut-être sur le patrimoine d'ICI à Castelnau-Magnouac. Qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce que vous entretenez? Quels sont les moyens que vous mettez pour entretenir votre patrimoine?
Alors, en ce qui concerne le patrimoine, et vous avez raison, c'est un point essentiel. On a la richesse d'un patrimoine qui a été abandonné parce que des familles sont parties, habitent en ville, mais ils sont restés propriétaires d'un bâti fermé, inoccupé. Donc l'enjeu, c'est de redonner vie à ce patrimoine ancien, de le restaurer en respectant l'architecture du Moyen-Âge et lui redonner une vraie vie, une vraie fonction.
On a tendance peut-être à cloisonner les époques, et en fait prendre soin du patrimoine, c'est justement décloisonner que le passé nous accompagne aussi, donc présent et futur.
Que le passé soit bien présent et qu'il soit réapproprié par des populations locales, mais aussi par des populations européennes. Ce qui nous caractérise ici, c'est qu'on a une forte population d'anglo-saxons. On a beaucoup d'anglais qui rachètent.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui les attire ici? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui fait qu'ils passent, ils restent?
C'est le soleil, c'est l'environnement qui a été protégé. On a tous les éléments, je dirais, patrimoniaux. J'ai évoqué le lac. Le lac, c'était un lieu de rencontre, un lieu de partage et de retrouvailles autour de l'eau. Élément essentiel qui va manquer cruellement si on n'y prend pas garde, si on n'est pas combatif sur une bonne gestion intelligente de la ressource en eau. Et donc, nos amis britanniques aussi sont là parce qu'il y a cette chaleur, cette acceptation de l'autre. Je crois que nous sommes très ouverts. Alors, c'est peut-être prétentieux, mais je l'affirme. On sait accueillir et on sait partager. Voilà. L'essentiel, c'est de trouver les bons équilibres pour que tout le monde reste dans ce partage, tout en gardant ses origines, ses traditions, mais en les mettant en commun pour enrichir, notre local.
Voilà. C'est pareil avec l'Église. Monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque de Tarbes et Lourdes, est en visite pendant 4 jours là, dans le pays de Trie et du Magnoac. Cette rencontre, ces échanges, ils font partie aussi de ce travail d'entretenir les bonnes relations.
Non mais tout à fait. Alors je suis un républicain, je suis un laïc et j'apprécie énormément, les relations que nous entretenons avec Monseigneur Mica. Le fait qu'il vienne à la rencontre, de la communauté chrétienne et tout simplement...
Et des habitants.
Je crois que c'est très important dans ce contexte, de fracture sociale, de respect des pensées et des pratiques, y compris dans le domaine religieux. Je crois que ça fait partie de nos richesses. Faire cohabiter à la fois la vie, les préoccupations du quotidien, ce qui nous amène à essayer d'avoir une économie forte, mais en ayant aussi le souci de garder notre culture judéo-chrétienne. Moi, je considère que ça fait partie de nos richesses. Et partager avec l'évêque, ce souci de veiller à ce que la culture chrétienne puisse toujours perdurer sur nos territoires, et je pense aux lieux de culte. On a la chance d'avoir des collectivités et un département qui veille à ce qu'on ait un bon entretien de ce patrimoine religieux, qui est un lieu de culte, mais aussi qui est sur le plan patrimonial, sur le plan architectural. C'est la trace de tout de l'histoire. La France, elle était rurale, elle était paysanne. La religion a fait faire à nos ancêtres, a fait réaliser des prouesses, construire...
Et la collégiale ici, devant laquelle nous nous trouvons, justement, en est témoin.
Voilà, ça c'est la collégiale, avec ses chapelains, avec... C'est un bâtiment, un édifice qui est remarquable.
Elle date de quand, cette collégiale?
Alors, c'est le 12e siècle, mais elle a été construite sur les remparts, justement, de la cité castrale, puisqu'on avait un château. Quel château a été détruit? On avait une première église qui était l'église Saint-Pierre, qui a été, au moment des invasions, qui a été détruite. Et qui a fini d'être détruite juste après la Révolution. Mais entre-temps, avait été reconstruit notre collégiale qui trône, au sommet de notre colline et au cœur de notre village. Tout ça, c'est notre histoire. Hein. C'est la preuve qu'on avait, à une certaine période, un sens du sacrifice et du partage pour ériger ces lieux de culte qui sont des lieux de rencontre. Le rythme de la vie est ponctué par des moments heureux, malheureux. Et nos églises, on voit bien qu'elles ont toujours cette fonction de regrouper les gens dans des moments malheureux ou heureux. Et puis, j'en terminerai en disant qu'il est important aussi qu'on ait des prêtres pour continuer à faire vivre, la pratique religieuse. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci à vous aussi.
Voilà, monsieur Verdier, maire de Castelnau, Magnoac, donc dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, était interrogé par Anne-Rose Jankovic. Interview réalisée il y a quelques semaines. C'était à l'occasion donc de la visite pastorale de monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, visite pastorale donc sur ce secteur. Allez, à suivre dans un instant, on va découvrir la figure d'un saint. C'est saint Orens qui a évangélisé la Bigorre. C'était au 4e siècle, d'origine espagnole. Il est même né à Huesca. Il a créé, entre autres, le tout premier moulin en Bigorre. On en parle dans un instant.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. Away.
restez à l'écoute de Présence Midi et de Radio Présence. Dans un peu plus de 10 minutes, on fait un point complet sur l'actualité régionale avec Carla Ponce de l'école de journalisme de Toulouse. Mais pour le moment, on retrouve Catherine Albrecht au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Bonjour Catherine Albrecht.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes une artiste, vous habitez dans le diocèse de Tarbes et Lourdes à Ville-Longue, donc du côté d'Argelès-Gazost. Et c'est là que vous avez découvert la figure d'un saint qui est très important dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est Saint Taurens. On vous ouvre le micro pour que vous nous parliez de ce saint qui a évangélisé la Bigorre au IVe siècle. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que la vie de Saint Taurens a commencé ?
En fait, on ne s'attend pas à ça, mais c'est un Espagnol. Et à l'époque, donc fin du IVe siècle, les Pyrénées forment un seul bloc et on navigue aisément de ce qu'on appelle la France maintenant à l'Espagne, ce qu'on appelle l'Espagne maintenant. Donc les routes, elles traversent nos montagnes. Donc Saint Taurens, de son nom latin Orientius, est né à Huesca. À Huesca, dans l'Aragon, d'une famille très aisée. On pourrait la comparer, cette famille, un petit peu, par la fortune, aujourd'hui, à L'Oréal. Donc, vraiment, des grandes possessions de terre. Le père, il était gouverneur de la province. La maman, bon, vraiment une noble aussi, un haut rang. Et il était appelé à succéder à son père. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il devient ermite dans une grotte à Ville-Longue?
Alors qu'il aurait pu, que tout était offert sur un plateau.
Même un plateau doré. D'habitude, on dit un plateau d'argent, mais là, c'était carrément un plateau doré. Et donc, il a un frère qui s'appelle Laurent, qui est devenu Saint-Laurent aussi. Et donc, le papa est mort, il s'appelait Orens aussi. Le frère hérite de toutes ses provinces et de toutes ses richesses. Et Saint-Laurent part à Rome, avec le destin qu'on lui connaît. Et donc, Orens hérite, et en fait, un ange l'avertit, comme quoi il va hériter, donc il s'enfuit. Et il s'enfuit, il traverse les Pyrénées, et il arrive à Ville-Longue. Voilà, en bas de Ville-Longue, hein, il démarre en bas.
Voilà, il démarre en bas. Alors voilà comment il est arrivé chez nous, en Bigorre. Vous dites qu'il a fui, parce qu'il a senti que sa vocation n'était pas de la suite de son père, mais qu'il était appelé à autre chose. Il avait déjà une vocation sacerdotale en lui.
Oui, je pense que ses biographes ne vont pas jusque-là, mais c'est ce qu'on ressent, en fait, quand on lit son histoire à travers différentes biographies. Bon, il vivait une vie un petit peu comme Saint François, faite plutôt de plaisirs mondains. Enfin, il vivait vraiment dans de ses richesses. Et il s'est rendu compte à un moment donné que c'était pas ça d'être chrétien, parce qu'il était chrétien. Et donc, il s'est dit que il avait une haute idée de ce que c'est d'être chrétien. Et c'est pour ça qu'il a fui, en fait.
Donc, il était un peu en quête d'un idéal, on peut dire.
Complètement.
Il est arrivé à Ville-Longue. Qu'est-ce qui fait qu'il est resté ? Il aurait pu poursuivre sa route ?
Alors ça, je ne saurais pas. Peut-être que c'est les montagnes qui lui ont plu. Il faut dire que c'est très joli comme endroit, Ville-Longue. Alors, il a commencé par s'intégrer à la population locale en créant un moulin. C'est le premier moulin de la Bigorre qu'il a créé. Et donc, c'était assez ingénieux comme système. Alors, il y a certains qui disent qu'il est l'inventeur du moulin. Bon, à voir.
Voilà, on garde quand même on émet quelques réserves. Mais bon, cela dit, il a créé fondé ce premier moulin. Quel était le visage de la Bigorre à ce moment-là ? C'était une terre qui n'était pas chrétienne encore.
Non, pas du tout. Et donc, il a fait sa renommée justement parce que les gens venaient lui apporter le blé et c'est comme ça aussi qu'il gagnait son argent en faisant de la farine. Et il en profitait pour justement exprimer les paraboles du Christ, voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à évangéliser la Bigorre. Et sa renommée a grandi parce qu'il était très zélé dans son apostolat. Et pour finir, il y avait tellement de gens qui venaient le voir, pas que pour moudre le grain, qu'il a de nouveau fui. C'est quelqu'un qui va fuir 4-5 fois dans sa vie. Hein. Quand il en a assez, il arrête. Et donc, il est monté plus haut dans la montagne parce qu'il s'est dit aussi que ça correspondait pas à son idéal. Il avait vraiment une autre idée de l'idéal chrétien. Donc, il a trouvé une grotte dans laquelle il a habité. à la faveur d'un tremblement de terre, il a trouvé un passage un peu secret vers une grotte, et donc il couchait à même la pierre dans cette grotte, et il allait se tremper dans le ruisseau Isabi, un magnifique ruisseau avec des très jolies cascades. Vraiment en plein hiver, seulement vêtu d'une simple tunique et avec une chaîne en fer autour des reins. Donc c'est quelqu'un qui pratiquait une ascèse très très stricte.
C'est étonnant cette soif de vivre caché. Ça me fait un petit peu penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face qui veut rentrer au couvent pour se cacher.
Alors c'est absolument pareil. Donc il chantait les psaumes, par exemple dans l'Isabie. Il chantait tous les psaumes dans l'Isabie en plein hiver, à peine habillé, avec cette fameuse ceinture de fer autour des reins, enfin une chaînette de fer. Cette chaînette, elle existe toujours et on lui attribue toujours des pouvoirs de guérison.
Alors une fois caché, est-ce qu'il a néanmoins continué à évangéliser, et de quelle manière?
Alors il a dit aux habitants de Villelongue qu'il pouvait vraiment cultiver, parce que c'était quand même à la base un agriculteur, même s'il était quelqu'un de très très lettré et qu'il avait eu une éducation très très soignée. En fait, à Villelongue, il se révèle comme un agriculteur. Il leur dit, ben voilà, les pentes du Nerbiou, vous pouvez vraiment vous les approprier. C'était une forêt dense, et dedans, on lui prêtait des pouvoirs maléfiques. On disait que des démons habitaient dedans. Et lui, il bénit cette forêt et il commence à défricher et à cultiver. Et ça aussi, ça a fait sa renommée. Parce que c'est comme s'il avait vaincu les démons, quelque part.
Et puis, ce travail de la terre le rendait crédible aux yeux de la population.
Ah, complètement, oui, oui. Il était intégré 100%, déjà avec son travail de meunier, puis après avec son travail d'agriculteur, il était complètement intégré dans la population.
Il est resté là combien de temps ?
Environ, une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'il soit appelé pour être évêque d'Auch. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le nonce apostolique, tout ça, c'était par acclamation. Donc, dans la cathédrale d'Auch est sorti le nom à l'acclamation. Orens, Orens, Orens.
Sa renommée s'était étendue jusqu'au diocèse d'à côté.
Oui, et c'était une renommée assez, assez importante. Donc, est-ce qu'il va dire oui ? Eh ben non.
il pouvait refuser.
Je crois pas. Mais il a refusé.
Bon, alors, il est têtu en plus, quand même.
Donc, pour lui, c'était de nouveau trop s'exposer. C'était pas la vie qu'il voulait. Il voulait une vie ascétique, vraiment tournée vers Dieu. Donc, il fait un challenge. Il a un bâton pastoral. Et si ce bâton pastoral fleurit, il acceptera la charge d'évêque d'Auch. Évidemment. Le bâton fleurit. Donc ça fait un des premiers miracles que tous les biographes racontent. Donc il va à Auch comme évêque d'Auch.
Oui, parce que obéissant quand même à la volonté de Dieu, bien sûr.
Oui, il voulait vraiment la connaître, cette volonté de Dieu, parce que lui, il s'était fixé quelque chose de très ascétique, quoi. Donc, il devient évêque d'Auch, et là aussi, sa renommée continue à s'étendre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un jour, alors, Toulouse est la capitale des Visigoths, à l'époque. Alors, le roi Visigoth, Théodoric, il se fâche avec les Romains, donc, qui étaient un peu, on va dire, les occupants de toute la Gaule. Et donc, le roi est fâché, donc les Romains assiègent Toulouse. Mais il faut un siège vraiment très très dur. Le roi Théodoric fait appel à Orens, Saint Orens, évêque d'Auch, pour devenir médiateur. Parce qu'il est aussi très connu pour ses talents de médiateur. Enfin, il a beaucoup de talents. J'en citerai d'autres, entre parenthèses. Il a écrit un poème qui fait 1500 vers et qui est un petit peu sur tout ce que c'est que d'être chrétien, qui s'appelle Le Monitoire. Ce poème, il est gardé précieusement dans différentes bibliothèques. Il écrit en latin, d'ailleurs. Donc, un grand poète aussi, Orens. Donc, il vient, Orens, à Toulouse pour faire la médiation, mais cette médiation échoue. Donc, il est fait prisonnier. Malgré tout, il convainc la population de Toulouse de prier. Donc, tout le monde prie, parce que c'est vraiment la dernière...
Parce que c'est lui qui le demande, en plus.
Et c'est la dernière extrémité. Hein. Ils sont à deux doigts de capituler. Et tombe une brume autour de, sur le camp et le lieu de bataille du général Litorius et du roi Théodoric, une brume qui fait que, ben, malgré tout, malgré le petit nombre de Toulousains, les Romains sont vaincus. Donc on attribue cette victoire à Saint-Orens aussi, voilà. Et le lieu de la bataille porte le nom de Saint-Orens de Gameville, voilà, près de Toulouse. Donc ça, ils ont gardé cette mémoire.
Donc on voit qu'il a marqué, alors bien sûr, la Bigorre et puis les diocèses à côté. Qu'est-ce qui s'est passé ici en Bigorre quand Orens est parti à Auch? Il avait eu le temps d'évangéliser, voilà, d'annoncer la bonne nouvelle. Ça a continué, ça a perduré. Qu'est-ce qui a fait que ça a perduré?
En fait, est arrivé un autre Espagnol du nom de Savin. Saint Savin, voilà, il est arrivé 5 ans après Saint-Orens, et c'était en quelque sorte 2 phares lumineux, un de chaque côté de la vallée, qui ont évangélisé la Bigorre. Pratiquement, on va dire, un peu à bricole près, en même temps. Et quand il est parti pour être évêque à Auch, Saint-Orens, ça on est vraiment sûr, il a confié la Bigorre à Saint Savin.
Voilà, donc on peut dire que ce sont nos deux pères bigourdans. Hein.
Oui, c'est des primo-évangélisateurs. Moi, j'attache une importance très particulière à ces deux figures-là, parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas eu la foi chrétienne à ce moment-là.
Nous marquons une pause dans cet entretien avec Catherine Albrecht, qui est au micro d'Anne-Rose Jean-Couvric. Catherine qui nous fait découvrir la figure d'un saint, c'est Saint-Orens qui a évangélisé la Bigorre au 4e siècle. La suite de cet entretien, c'est juste après l'actualité régionale. L'info est présentée aujourd'hui par Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac.
Bonjour à tous. Face à la sécheresse, la préfecture de l'Ariège a instauré hier des restrictions d'eau jusqu'à fin octobre 2025. Avec des rivières et nappes très basses, l'arrosage, le lavage des voitures et le remplissage des piscines sont limités ou même interdits selon les zones. En cas de non-respect, les amendes peuvent atteindre 1500 euros pour les particuliers et 7500 pour les entreprises. La préfecture appelle chacun à adopter des gestes économes face à la situation. Le Conseil constitutionnel a annulé une partie de la loi Duplon qui autorisait l'usage de l'acétamipride, un insecticide essentiel pour protéger les noisettes contre les parasites. Cette décision inquiète particulièrement les producteurs du Lot-et-Garonne. Face à cette situation, les producteurs ont lancé une cagnotte en ligne pour financer la recherche de solutions naturelles comme la guêpe samouraï, mais ces alternatives ne seront prêtes que dans plusieurs années. Les travaux de la nouvelle ligne aéroport de Tisséo ont débuté à Blagnac avec la construction de 2 stations de tramway nommées Blagnac. Reliées à la future ligne C du métro, elle permettra de rejoindre l'aéroport dès fin 2026. La route de Grenade sera partiellement déplacée pour faciliter le chantier et les rails du tramway T2 seront reconstruits. À l'aéroport, le terminus sera réaménagé pour guider clairement les voyageurs. Ce projet vise à fluidifier les échanges entre le hub de Blagnac et l'aérogare. À Auch, le centre d'hébergement d'urgence L'Escale est très sollicité cet été, voire presque toujours complet. Avec seulement 25 places, il accueille principalement des personnes sans domicile, souvent en grande difficulté. Malgré la canicule, le centre reste ouvert toute la journée pour offrir un lieu sûr, des repas et de l'eau. Les usagers, hommes et femmes, participent aussi aux tâches quotidiennes. L'Escale continue d'accompagner chacun vers une solution durable. À Castres cet été, la mairie facilite le stationnement avec des parkings gratuits en périphérie, accessibles à pied ou en navette. En voirie, un tarif unique et abonnements sont proposés aux résidents. Les parkings couverts offrent 1 heure gratuite et des réductions le soir. Et grâce à l'application Flowbird, il est possible de payer à distance et donc de profiter du centre-ville sans stress ni recherche fastidieuse de place. Et enfin à Rodez, l'association WIP eSport est devenue la première équipe professionnelle de jeux vidéo de la région spécialisée dans le jeu Valorant. Créée en 2020, elle accompagne ses joueurs avec coach et spécialiste pour assurer leur performance et leur santé. Pour rapprocher les habitants, WIP eSport organise des soirées de visionnage des matchs et espère bientôt tenir des événements au stade Paul Lignon. Soutenue par des partenaires locaux, cette équipe contribue à faire connaître Rodez dans le monde de l'e-sport.
Merci Carla Ponce. Voilà pour le journal régional. L'info sera de retour à 13h avec l'actualité nationale et internationale. Dans les prochaines minutes, on va parler d'un panorama. Un panorama, c'est une structure ronde sur laquelle est installée une grande toile qui représente des scènes. Et Lourdes a eu son panorama, hein, avec une toile de plus de 125 mètres de long. C'était au 19e siècle. On en parlera dans quelques minutes avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Mais pour le moment, on retrouve la suite de cet entretien entre Catherine Albrecht et Anne-Rose Jankovic. On parle de Saint-Orens.
Alors, vous nous parliez du miracle du bâton qui a fleuri. Il y en a eu d'autres. À quel miracle on attribue à Saint-Savin et qu'est-ce qui fait à Saint-Orens, pardon, et qu'est-ce qui fait qu'Orens est devenu saint?
Il faut raconter la suite de l'histoire pour un petit peu comprendre comment il est devenu saint. En fait, il a fait des stages à Villelongue. Quand il était évêque, il est revenu. Bon, les gens sont revenus le chercher pour qu'il retourne à Auch, mais je crois qu'il avait besoin. Il est revenu, je crois, deux fois, un long moment à Villelongue. Quand il est retourné à Auch et qu'il y est resté, c'est un autre roi franc qui a fait appel à lui parce que sa fille, elle était Cornélia, était possédée par un démon. Et donc, il a fait un exorcisme sur cette jeune fille qui a convaincu ce roi franc de se convertir aussi à la foi chrétienne. Et de ce roi franc, c'est une branche des rois de France. Il est né une branche des rois de France de ce roi franc. Donc, voilà. Donc, Saint-Orens, il est un petit peu aussi, moi, je dirais, à la base du royaume de la France, parce que d'avoir fait cet exorcisme. Donc, son aura entre, on va dire, le bâton qui fleurit, son zèle apostolique pour vraiment expliquer qui était le Christ, vraiment expliquer avec des paraboles, le fait qu'il ait réussi à faire la paix à Toulouse, gagner cette bataille, après son ministère aussi à Auch et la guérison de cette jeune fille, au fond, par cet exorcisme, bon, il a acquis une réputation énorme. Et donc, quand il est mort, ben, les gens venaient sur sa pierre tombale à Auch. Au départ, elle était à Auch. Maintenant, elle est à Huesca. Il y a eu une translation dans les années 1670 de ses reliques. Voilà, donc ils venaient sur sa pierre tombale et ils étaient guéris. Et ça, pendant des siècles. Il venait aussi sur la pierre qui lui avait servi de lit dans la fameuse grotte où il habitait à Villelongue. Là aussi, il y avait des miracles. Et on a un petit bout de la chaîne, elle est dans un reliquaire aussi dans l'église de Villelongue. Ce reliquaire était sorti et des enfants étaient guéris. Il guérissait des enfants, voilà.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de Saint-Savin. En Bigorre, parce qu'il y a l'abbatiale, parce que de fait, par l'abbatiale, on a le sentiment que Saint-Savin est plus accessible, peut-être. Mais Saint-Orens, c'est quand même le primo évangélisateur de la Bigorre. Quelles sont les traces aujourd'hui, ici en Bigorre, de la vie de Saint-Orens?
Alors, les traces, elles sont essentiellement à Villelongue. Il y a à la fois dans la statue ce fameux reliquaire, avec plusieurs reliques, hein, de ses ossements et aussi de cette fameuse chaînette. Je fais une petite parenthèse. Ces reliques, elles ont été volées en 2004 par des personnes, voilà, qui pensaient peut-être s'attribuer pour eux ces pouvoirs de guérison. Et je pense que ça a plutôt mal tourné parce que 10 ans après, en 2014, il y avait un petit sac plastique accroché à l'église de Villelongue dans lequel il y avait un petit mot. Voici les reliques de Saint-Orens.
C'est incroyable cette histoire.
Oui, complètement. Et on a été assez bouleversés, je dois dire. Et donc, ça a pris un certain temps pour vraiment faire tout le travail de savoir si c'était bien les reliques de Saint-Orens, qu'on n'était pas dupés, hein, en quelque sorte. C'est l'abbé Joanneau-Loup qui a fait ce travail-là de reconnaissance avec Madame Castillo. Et puis, ça aboutit à une très jolie cérémonie, un 15 août, où on a vraiment remis les reliques. Elles ont été attestées comme étant exactes, hein, puisqu'ils ont trouvé des documents vraiment décrivant les reliques trait pour trait. Et un 15 août 2014, on a fait une très très belle célébration pour remettre en place les reliques dans le reliquaire de Saint-Orens. La deuxième trace, c'est l'abbaye de Saint-Orens. Alors, il n'y a jamais vécu. Ça a été une abbaye qui a été construite 4 siècles plus tard, mais qui porte son nom et qui a été faite aussi en, quelque part un peu pour honorer sa mémoire.
Et qui se trouve au-delà du village d'Ortillac.
Oui, il faut monter un petit peu, c'est assez, assez facile d'y accéder. Bon, ce sont des ruines, malgré tout, c'est des ruines très romantiques et très jolies.
Il y a eu une vie monastique à cet endroit-là ?
Oui, assez importante et assez longtemps, jusqu'à la Révolution. Mais la Révolution a fait que les bâtiments, ils ont été cédés à des personnes laïques, et à deux personnes, donc l'église a été, et le cloître ont été coupés en deux, mais au milieu. Et donc, depuis la Révolution, ça appartient à deux familles différentes, depuis plusieurs siècles. Voilà.
Et aujourd'hui, ce sont des ruines. Catherine Albrecht, vous, vous êtes un petit peu passionnée par la vie de Saint-Orens, au point que vous avez écrit une pièce de théâtre, Orens et les champs étoilés. Alors déjà, ce nom est très joli, c'est un peu poétique, mais vous nous avez dit que Saint-Orens était un poète. Les champs étoilés, c'est quoi ? Pourquoi ce titre ?
Parce qu'en fait, pour moi, d'évangéliser, c'est comme un grand champ, en fait. C'est un grand champ à travailler. Et lui, il a fait ça à la fois, on va dire, d'une façon réelle, en tant qu'agriculteur, et après d'une façon imagée et poétique, avec son zèle apostolique. Et donc, c'est comme s'il avait mis plein d'étoiles dans notre région, quoi.
Ah, c'est très joli de connaître la raison. Est-ce que vous voulez bien, pour conclure cet entretien, nous lire un passage de cette pièce de théâtre?
Alors, je vais vous lire L'enfance d'Orens, la charité délicate. Alors, on est chez les Orens, donc une famille très très riche, hein, c'est vraiment un joli décor, très riche. Alors, Orens est enfant, hein, je vais vous raconter un petit épisode d'Orens enfant. Je m'appelle Orens, je suis né dans une famille noble. Mon prénom a une origine latine qui signifie le surgissant. Je suis né en Espagne, plus précisément à Huesca, en l'an 370 après Jésus-Christ. Huesca, c'est tout près de la frontière, de l'autre côté des monts Pyrénéens, en Espagne. Nous sommes chrétiens. Cela veut dire que nous croyons en Jésus, le Messie ressuscité des morts, le premier des vivants. Bon, il dit tout de suite sa foi. Son papa l'appelle. « Orens, Orens, où es-tu, mon enfant ?»« C'est mon papa qui m'appelle. Il porte d'ailleurs le même prénom que moi, Orens. Il est avec maman, elle s'appelle Patience, de son prénom. Je trouve que c'est joli, Patience, et que ça lui va bien. » Je suis là, papa. Et ton frère, il n'est pas avec toi. Laurent, sors de ta cachette. Papa et maman nous cherchent. On arrête de jouer, c'est l'heure des devoirs. La maman dit, votre précepteur est arrivé. Allez le rejoindre, mes chéris. Il vous faut apprendre. C'est l'heure de la lecture et de l'écriture ensuite. Allez, on y va. Orens, mon cher époux, penses-tu que l'un de nos enfants prendra ta succession en tant que gouverneur de la province de Tarragone ? C'est une lourde charge de diriger une telle province, malgré tous les honneurs liés à ce rang. Le papa dit, à cela il faut ajouter l'administration de nos palais, ainsi que de tous nos biens et de nos vastes exploitations agricoles, sans compter le nombre de nos serviteurs à diriger. Ah, nos enfants sont encore jeunes, peut-être que je m'inquiète trop de leur avenir. Mais je suis rassurée, car tu prends aussi part à leur éducation pour en faire des hommes de qualité. Orens enfant. Vous voyez, j'ai une enfance heureuse, entre un père et une mère qui s'aiment et qui nous aiment, mon frère et moi. Des précepteurs nous ont appris à lire, à écrire. Mais c'est mon père qui m'a appris la charité. Quand on a beaucoup d'argent, comme nous, est-ce que nous savons donner à ceux qui sont dans le besoin ? Savons-nous être généreux ? Alors là, il y a plein de monde qui arrive. On va sauter un petit peu, tout ça. On va lire la fin de cette petite scène. On est en présence, au milieu de la scène, de gens qui sont un petit couple qui est ruiné. Et bien, Orens, ça lui fend le cœur de voir ce couple ruiné. Il y a un serviteur qui annonce que ce petit couple est ici. Le père dit au serviteur, je ne vais pas les recevoir, je ne les recevrai point. Donc, la maman, Patience, dit, tu es sûr ? Mais ne sont-ils pas dans le besoin ? Alors, Orens va vous recevoir, il va nous aider, dit le petit couple. Et le serviteur dit non, hélas, il refuse de vous recevoir. Donc, la maman du petit couple dit, mais qu'allons-nous devenir, et les enfants ? Et donc, il y a une jeune femme qui est une servante qui arrive et qui dit bonjour, vous êtes bien le négociant, enfin l'ancien négociant qui est tombé dans la ruine. Bah lui dit oui, c'est moi. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai une bague en or, je voudrais la vendre car je dois voyager et je ne peux pas l'emporter avec moi, peu importe la somme d'argent que vous me verserez. Le monsieur ruiné dit oh, c'est une belle bague d'une grande valeur, je ne peux pas vous causer du tort car je ne peux pas payer le juste prix, je n'en ai plus les moyens. La dame dit j'insiste. Je souhaite vous la céder. Vous en ferez meilleur usage que moi. Le monsieur dit, j'ai deux pièces d'argent, c'est tout ce qu'il me reste. Je peux vous donner une pièce d'argent pour la bague. Bon, d'accord, dit la dame. Un autre serviteur arrive et dit, bah voilà, là j'ai un manteau tissé de fil d'or, un habit vraiment très beau, précieux, mais je n'en veux plus, il ne me plaît plus. Pouvez-vous me l'acheter, même pour quelques sous? Soit il me reste une pièce d'argent, c'est toute ma fortune, c'était pour nourrir ma famille, mais tenez, voici. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le négociant, comme il sait bien faire des affaires, eh bien, en fait, il va revendre la bague et revendre le joli manteau et va avoir beaucoup d'argent en contrepartie. Et les deux personnes qui ont amené cette bague et ce manteau, ce sont des serviteurs du papa de Reims. Et c'est ainsi qu'il a fait la charité. L'enfant, au Reims, était effrayé, en fait, de voir tout ça. Mais il a compris ce que c'était que la charité délicate, en fait. Le papa au Reims a fait confiance au talent de négociateur, de marchand. Il a redonné confiance, il a redonné de la marchandise pour pas cher. Et donc, au Reims, a compris ce que c'était que la charité délicate.
Voilà qui nous en dit long alors, sur l'enfance et sur l'éducation qu'a reçue Saint-Aurin. Saint-Aurin qui est donc venu évangéliser notre Bigorre au IVe siècle. Et Saint-Aurin que l'on partage quand même un petit peu avec nos amis du diocèse d'Auch et du diocèse de Toulouse. Merci beaucoup Catherine Albrecht de nous avoir aidé à plonger dans cette histoire, la vie et le visage de Saint-Aurin. Merci beaucoup.
Merci à vous tous, merci Anne-Rose.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé cet entretien avec Catherine Albrecht. La suite de Présence Midi dans les prochaines minutes, dans un quart d'heure précisément, vous serez informé avec la rédaction française de Radio Vatican, toute l'actualité nationale et internationale. Et dans un instant, eh bien, on va s'intéresser au panorama. Le panorama, c'est en quelque sorte l'ancêtre du cinéma. C'est une immense structure ronde sur laquelle une toile est dressée. Cette toile représente des scènes. Lourdes a eu son panorama au 19e siècle, un panorama qui avait une surface de plus de 125 mètres carrés. On en parle dans quelques instants avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes.
Seguro que tú estás. partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes aujourd'hui, c'est avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous avez décidé de nous parler de panorama. Avant de parler du panorama qui était installé à Lourdes, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un panorama pour nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Alors le panorama, finalement, c'est l'ancêtre un petit peu de nos séances de cinéma actuelles. Avant toute la technologie qui a été développée ensuite pour le cinéma, le grand public n'avait pas accès à beaucoup d'images et les panoramas étaient très à la mode dans les villes touristiques aux alentours du 20e siècle. En fait, c'était des immenses structures rondes qui étaient aussi appelées rotondes, justement, et dessus se déroulait une toile, finalement, qui représentait des scènes sur plusieurs peintures, donc sur plusieurs mètres de long. Et les premiers panoramas ont été inventés à la base en Angleterre et aux États-Unis aussi, et ils représentaient principalement, finalement, des skylines, des vues, en fait, de villes depuis les immeubles, depuis les premiers, du premier toit. Puis ensuite, ça a été développé et ça a commencé à représenter des scènes historiques, par exemple des batailles napoléoniennes notamment, et à Lourdes, encore un autre sujet.
Voilà, et Lourdes a eu son panorama, une toile de 125 mètres de long.
Exactement, Lourdes a eu son propre panorama de 1883 à 1955. C'était la Société anonyme du panorama de Lourdes qui a été constituée le 19 juillet 1881. C'est une toile qui a d'abord été inaugurée une première fois à Paris, en 1882. Elle a été ensuite roulée sur un madrier cylindrique et une machine à vapeur, et a été chargée sur un train pour arriver jusqu'à Lourdes. C'était une toile immense de 125 mètres de long sur 16 mètres de hauteur, et elle a été montée sur une structure en bois qui a été construite ici même à Lourdes, et elle racontait l'apparition du 7 avril 1858. C'était l'apparition dite du miracle du cierge. Durant l'apparition de la dame, Bernadette laisse sa main sur la flamme du cierge, mais elle ne s'y brûle pas.
Qui l'a réalisé, ce panorama?
C'était un peintre français, Pierre Carrier-Belleuse. Il est né en 1851, mort en 1932. Et il avait déjà réalisé un panorama sur la vie de Jeanne d'Arc. Donc ce n'était pas son premier coup d'essai. Après, pour le panorama de Lourdes, vu l'ampleur du travail, il a eu une grosse équipe d'autres peintres pour travailler avec lui. Mais ils ont quand même mis plus de 2 ans pour la réaliser. Ils ont représenté plus de 500 personnages avec tous les costumes d'époque, le vieux château, la grotte aussi, les montagnes Pyrénées autour. En fait, Pierre Carrier-Belleuse était venu déjà faire à Lourdes des études, des crayonnés sur le terrain, et il s'était aussi beaucoup, beaucoup renseigné pour essayer de retranscrire les faits historiques avec le livre notamment d'Henri Lasserre sur les apparitions de Lourdes.
Alors, où était installé ce panorama à Lourdes?
Ce panorama, il était installé pas loin des prémices de ce qu'allait devenir le sanctuaire qu'on connaît aujourd'hui. Ça correspond actuellement à la rue Sainte-Marie. Donc c'était un grand panorama, donc pour y entrer, les premiers pèlerins et visiteurs, les premiers touristes finalement, devaient payer 1 franc. Et ensuite, ils faisaient tout le tour de la rotonde pour avoir toutes les scènes de cette apparition à Bernadette. Alors cette peinture, après, n'était pas prévue pour rester exposée si longtemps. En général, les panoramas, c'était des expositions plutôt temporaires qui étaient vouées à être démontées et qui même parfois prenaient la route, qui pouvaient être un peu comme des cirques comme on connaît actuellement. Ils prenaient la route, les panoramas étaient exposés dans plusieurs grandes villes européennes. Celui de Lourdes est resté sur place pendant très longtemps, jusqu'en 1955. Mais en 1955, du fait des intempéries et finalement des conditions de conservation, il devait être restauré. Il avait vraiment besoin d'être restauré. Mais devant l'ampleur des coûts de la peinture, qui était assez immense, ils ont préféré démonter la toile en 1956. Elle a ensuite été divisée en plusieurs petites parties, en plusieurs petites toiles, et a été longtemps gardée dans des greniers de particuliers, et ensuite rachetée par la ville de Lourdes en 2008.
Alors, il reste encore une trace de ce panorama, puisqu'il y a un hôtel qui porte ce nom-là à Lourdes.
Exactement. Un hôtel qui se trouve exactement sur l'emplacement de cet ancien panorama, et qui a d'ailleurs gardé sa forme arrondie, que l'on peut toujours voir rue Sainte-Marie, et qui a gardé aussi le nom, l'hôtel Panorama.
Il y a même eu un deuxième panorama qui a été installé à Lourdes.
Et oui, devant le succès du premier, ça a attiré des convoitises. Et donc, un deuxième panorama est venu être monté à Lourdes entre 1900 et 1905. Alors, lui, il n'a pas duré très longtemps. C'était un panorama qui représentait Jérusalem au temps d'Hérode et qui avait eu un immense succès à Paris, notamment au Théâtre Marigny, qui autrefois était aussi un panorama d'ailleurs, le panorama Marigny. Mais moins de succès à Lourdes. Et surtout, il a été construit beaucoup plus proche de la montagne des Espélugues, où se trouve aujourd'hui le chemin de Croix. Ce qui fait qu'il y avait quand même pas mal d'intempéries et des conditions de conservation qui étaient vraiment trop humides pour un panorama de cette ampleur. Il a été démonté assez rapidement, au bout de 5 ans donc.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce panorama, cette toile donc de 125 mètres de long, et on se souviendra également du tarif d'entrée, 1 franc. Voilà. Un grand merci, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. Voilà pour ce panorama Lourdes qui a eu son panorama il y a quelques dizaines d'années. Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle balade en Pays de Lourdes.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes. Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence.
Il sole dei tuoi occhi ci vuole un attimo.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les appels pour la paix de plus en plus nombreux dans la société israélienne, les familles des otages.